Alors, je voudrais commencer le sujet en vous rappelant comment vivaient les Juifs. Les hommes allaient trois fois à Jérusalem par an pour remettre des sacrifices, soit d'expiation, soit d'action de grâce. Ils se présentaient bien sûr, non pas dans le parvis des gentils, des païens, ni dans le parvis des femmes, ils se présentaient dans le parvis des hommes, et puis ensuite devant les Lévites. Et l'agneau, la tourterelle, le bœuf, eh bien, était l'objet de la confession des péchés. Les hommes mettaient les mains sur la tête des animaux, confessaient les péchés de eux et de la famille, parfois de leur clan, et puis ensuite l'animal était conduit jusqu'au sacrifice. Et quand l'animal était tué, saigné d'abord, tué, on l'ouvrait et on brûlait la graisse et les entrailles. La viande était cuite, était partagée entre les prêtres, les lévites, parfois même entre ceux qui en avaient apporté. Mais ces animaux qui mouraient, ils mouraient à la place du pécheur qui s'était présenté au temple. Ils mouraient à la place de tous ceux qui reconnaissaient leur péché et qui méritaient la sanction ultime, qui est le châtiment éternel, la mort. Donc c'était des hommes qui étaient enseignés dans le sens du péché, dans le sens du repentir, et surtout de l'effusion de sang. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut sans effusion de sang. Ce qu'il y a, c'est que ces hommes, et ensuite les femmes venaient une fois par an avec les enfants, une des trois fois où les hommes venaient, la femme et les enfants venaient. Ce qui se passait, c'est qu'ils étaient quand même convaincus que les péchés n'étaient pas pardonnés, ils étaient couverts. Dieu prenait patience à leur égard. Il fallait un sacrifice ultime, plus grand et meilleur. Un être sans péché. Et c'est ce qui avait été promis à Adam et Ève, à Abel, à Abraham, au chapitre 22, sur le mont Morija, et puis ensuite ce qui avait été décrit et bien expliqué dans Ésaïe 53. Et c'est ce que Jean-Baptiste a expliqué à ses disciples en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Donc Jésus va se présenter comme le sacrifice sans péché, le sacrifice parfait, le Fils bien-aimé, l'être le plus aimé de Dieu, le mieux connu de Dieu, qui connaît Dieu infiniment, qui est à son égal dans la sainteté, dans l'intelligence, dans le pouvoir, mais qui est soumis par amour à son Père, qui est soumis à sa volonté. Et il va au sacrifice pour payer pour nos péchés. Devant le Saint des Saints, ce lieu où le grand prêtre ne rentrait qu'une fois par an, il y avait un chandelier à sept branches, qu'on appelle la Ménorah. La Ménorah représente le Dieu créateur, qui a créé l'univers en sept jours. Mais il représente plus que cela. La Ménorah représente l'intelligence divine, le savoir-faire de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la lumière de Dieu. Dieu est intelligent. L'intelligence infinie de Dieu était représentée et la toute-puissance infinie de Dieu était représentée par la Ménorah. Personne ne s'approchait de la Ménorah. Et lorsque le temple va être détruit, que la Ménorah sera emportée par Titus, il est clair que l'accomplissement de la parole de Jésus est arrivé. Jésus dit Jean, en Jean chapitre 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus a remplacé la Ménorah. Jésus est la Ménorah parfaite, vivante, installée dans le monde. Jésus est la lumière du monde et il n'est pas venu pour que les ténèbres continuent à régner. Avec la Ménorah juive et avec les sacrifices juifs, les ténèbres continuaient. Je peux comprendre le grand prêtre qui a décidé la condamnation de Jésus. Ce grand prêtre avait la crainte de Dieu. Il devait se présenter une fois par an dans le temple devant l'arche d'alliance, le propitiatoire, il craignait Dieu. Et il voit en Jésus, qu'il ne connaît pas bien, il voit un imposteur qui veut supprimer ce grand sens de Dieu, cette grande intelligence de Dieu qu'ont les Juifs. cette grande révélation que le peuple juif a de Dieu, par les prophètes, par Moïse, par le Saint-Esprit. Et donc, Jésus va être éliminé tout simplement de bonne foi, par un grand prêtre consciencieux qui aime Dieu. C'est pour ça que dans Zacharie, nous avons un texte qui nous parle de retour de Jésus et lors de son retour, des personnes demandent à Jésus « Mais qui t'a fait ces trous dans les mains, dans les pieds, dans le flanc ?» Et Jésus répond à ceux qui sont là lorsqu'il reviendra « Mais c'est ceux qui m'aimaient qui m'ont percé les mains et les pieds. » Nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que le malentendu était grave, mais il ne faut pas accuser les Juifs d'avoir tué Jésus. Il ne faut pas accuser. Nous aurions fait la même chose, nous ne comprenions rien à Jésus. Et l'antisémitisme et la haine des Juifs n'est pas justifiée. Ils étaient de bonne foi et ils tenaient à la révélation et aux enseignements de Moïse et de tous les prophètes. Ne regardons pas leurs défauts. Ne soyons pas trop sages à nos yeux, parce que nous avons autant de défauts qu'eux. Alors, je voudrais prendre un texte aujourd'hui dans Luc pour revenir à ce sujet par la suite. Luc, chapitre 14, verset 25. Jusque 35. Luc 14, verset 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Et je voudrais ajouter, et la menorah et le temple, et les rites que vous avez, et la façon de croire. Il faut tout rejeter. Jésus dit qu'il faut tout rejeter. Ce n'est pas les êtres humains qu'il faut rejeter. C'est la culture judaïque, dans le sens des habitudes, dans le sens de que cette coutume est finie, qu'il y a plus devant eux. Il y a la lumière du monde qui est venue devant eux, en Christ. Mais ils n'ont pas compris. Donc cette parole de Jésus va devenir une provocation, une terrible insulte. Pour certains, quelques exceptions, ces exceptions vont les accepter cette parole, au prix de leur vie. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse s'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. » Imaginons un juif qui suit Jésus, qui croit en Jésus, et puis qui tout d'un coup, sous la pression de la famille, sous la crainte, comme Pierre a fait dans le temple, devant la dame, la femme, tout près du feu, devant les soldats, qui renonce à Jésus. Et bien c'est un homme qui a voulu construire une tour et qui n'a pas pris le temps de réfléchir. Sa foi n'est pas construite. Sa foi n'est pas édifiée et solide. Cet homme, verset 30, a commencé à bâtir et n'a pu achever. Nous sommes donc en demeure de savoir si notre foi est solide et est réellement le fruit du Saint-Esprit, le don de Dieu, ou si c'est une humeur humaine, un tendance charnel, un besoin de sécurité ou imaginaire. Autre image de Jésus, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Imaginez la collision sociale, familiale, dans les clans, entre un juif qui se convertit et tout le reste de son entourage. C'est aujourd'hui la même chose pour un musulman. S'il devient chrétien et tout le reste de son entourage, c'est une menace. Et vous voyez l'image des 20 000 supérieur aux 10 000. Il peut avoir le sentiment qu'il ne va pas réussir cette bataille, qu'il ne va pas arriver. Il peut avoir le sentiment de défaite. Et il peut avoir l'idée que sa bataille est perdue d'avance. Frères et sœurs, je voudrais que vous vous mettiez à la place de quelqu'un qui se convertit Il faut prier pour lui et l'encourager. C'est pas une bataille qu'il va gagner tout seul. Parce que les pressions sur lui sont bien plus puissantes que ses propres forces personnelles. Il faut donc un recours divin, un salut de Dieu pour venir appuyer ce converti. Continuons, verset 32. « S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Évidemment, si nous voulons, après avoir fait un bout de chemin dans la conversion, avoir la paix avec tous les autres, il est toujours possible. Les autres seront contents. Les autres seront contents qu'on abandonne l'Évangile, qu'on abandonne Jésus. Ils seront satisfaits. Ils vous pardonneront, ils oublieront, mais vous garderont, ils vous regarderont du coin de l'œil en disant, on ne sait jamais qu'il recommencerait. On ne sait jamais qu'il irait encore voir ses amis chrétiens. Donc imaginez ce que c'était que la situation d'un juif à cette époque-là. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur terre qui vivent cela. Moi personnellement, dans ma conversion, étant jeune, j'ai vécu cela. Et je vais vous dire, ce n'est pas marrant. Ou vous cédez et vous demandez la paix, et on vous l'accorde. Et c'est gagné. Vous renoncez à Jésus, ou vous n'envoyez pas d'ambassade, et vous restez dans la foi. Vous ne démissionnez pas. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Il faut renoncer à ce besoin de sécurité, qui est menaçant en nous. Ce besoin d'avoir l'assentiment des autres, le besoin de l'amitié des autres. Il faut choisir Jésus. Et si nous ne renonçons pas à cela, il est impossible de rester dans l'Évangile et de suivre Jésus. C'est très difficile, les amis, le chemin de Jésus. C'est le petit chemin étroit, c'est la petite porte étroite. Et au verset 34, « Le sel est une bonne chose, mais le sel, si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est ni bon pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Vous savez que Jésus et les apôtres ont souvent comparé l'enseignement des pharisiens, des prêtres, l'enseignement judaïque, à du levain qu'on met dans de la pâte pour lever la pâte. Et Jésus a toujours dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, méfiez-vous des enseignements. C'est-à-dire que même convertis, les enseignements que nous pouvons recevoir du milieu d'où nous venons sont comme du levain. On les voit à peine, mais ils sont agissants en nous. Ils sont agissants en nous. Et il faut jeter du sel dessus pour tuer l'activité du levain. Il faut qu'il y ait du sel. Il faut une mort de toutes les racines de la non-foi. Rappelez-vous l'image d'Abraham. Abraham a quitté le sud de l'Irak, le pays de Shinéar, la Chaldée. Il a tout quitté pour Dieu. L'image d'Abraham, le père de la foi, il a renoncé à toutes les racines de la foi, de la culture qu'il avait en lui. Et il a cherché le vrai Dieu vivant. Il a été éprouvé, il n'a pas toujours été à la hauteur. Mais il y avait du sel sur tout ce qui venait de son héritage. Et tout son héritage a péri. Il a mené une nouvelle vie, une nouvelle foi en Dieu. Et il est le père de la foi. Si vous comprenez cela, vous voyez le dernier verset, verset 35, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Rappelez-vous, les amis, que ce verset, on le trouve dans l'Apocalypse, à la fin de chaque message de Christ aux sept églises. Sauf que Jésus n'est pas visible pour les sept églises. Il n'est pas visible. Sauf pour Jean l'apôtre à Patmos, qui le voyait. Mais ce qu'il y a, Jésus dit que l'Esprit qui parle aux églises, les églises l'entendent, que celui qui a des oreilles l'entende. L'Esprit Saint nous parle. L'Esprit Saint nous parle. Tout aussi fort et aussi vrai que Jésus a parlé à ses disciples en direct. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'écoute de l'Esprit Saint et de sa parole. Alors, je vais reprendre un peu mes notes maintenant, évidemment. Un véritable enseigné, un vrai disciple, a pris au sérieux le choix de Christ. Mais c'est une grande bataille. Il a 10 000 hommes et en face de lui, il en a 20 000. Il a papa, maman, les frères, les sœurs, il a tout le milieu. Et c'est une grande bataille. Comment va-t-il gagner cette bataille? En portant sa croix. En souffrant. En souffrant. Toutes les références de la foi que Jésus nous enseigne, c'est de marcher derrière lui et de porter notre croix. Aujourd'hui, Jésus n'invite pas un chrétien a manqué d'amour pour ses proches, pour ses parents. Il n'invite pas à rejeter ses amis. Il n'invite pas à rejeter ceux qui ont encore la foi ancienne. Il demande de rejeter et de se tenir à distance des mauvais enseignements reçus. Et il demande de s'écarter de toute suggestion, de toute subordination possible, venue du clan familial, du clan religieux. N'oublions pas que les humains de Palestine, à l'époque de Jésus, nous retrouvons cette culture en Afrique, en Orient, en Asie. Beaucoup de gens ne tolèrent pas que quelqu'un devienne chrétien. Ah oui, un chrétien selon la tradition africaine ou selon la tradition orientale, avec toutes les mœurs et les pensées du milieu. Oui, mais ça, c'est un chrétien à la sauce de Constantin, à la sauce de l'histoire. Ce n'est plus le chrétien selon la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a pris, qui a envoyé une ambassade et qui a fait la paix avec les autres. Il est chrétien avec une paix artificielle et fausse. Il n'a pas rompu. Il n'y a pas de rupture. Donc le mot haïr, dans Luc chapitre 14, verset 26, est un mot très fort. Jésus n'a jamais enseigné la haine. Mais simplement, il demande une décision ferme qui est aussi forte que la haine, mais qui n'est pas de la haine. C'est une radicale liberté de l'enfant de Dieu à rester attaché à Jésus, malgré toutes les pressions. C'est une radicale liberté de rester attaché à la parole de Jésus et de ne plus accepter les autres enseignements. Parce que cet enfant de Dieu a retrouvé son vrai Père grâce à Jésus. Il a retrouvé son salut qu'il avait perdu. Il a son salut en Jésus, par le sacrifice de Jésus. Donc les vrais convertis connaissent toujours une division, une rupture avec leur milieu, qui est difficile à supporter. C'est la croix de Christ, que nous portons tour à tour, comme nouveaux chrétiens. Regardons dans Jean, chapitre 15, verset 25. Jean, chapitre 15, verset 25. D'abord au verset 23, celui qui me hait, Jean 15, 23, celui qui me hait, donc qui me rejette, hait aussi mon Père, donc rejette Dieu. Mais continuons avec le verset 24 et 25, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres, donc des actions, des paroles, des miracles, que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant qu'ils ont vu toutes mes œuvres et qu'ils m'ont haï, et moi et mon Père, ben, ils ont péché, c'est clair. Cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. C'est une parole qui se trouve dans le psaume 35 au verset 19. Ils m'ont haï sans cause. L'homme qui rejette Jésus, l'homme qui rejette un chrétien, ne comprend pas pourquoi il le fait. C'est pas du domaine raisonnable. C'est même pas du domaine passionnel, c'est pas du domaine du sentiment, c'est plus fort que cela. C'est du domaine des ténèbres. C'est une opposition qui vient de Satan. Donc le chrétien ne doit pas avoir peur de ceux qui expriment de la haine. Il doit prier pour ceux qui ont de la haine pour lui. Le chrétien doit bénir ceux qui le haïssent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Rappelez-vous ce que Jésus a dit sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils sont mobilisés, ils sont habités par quelqu'un qui dirige leurs pensées contre Christ et contre le chrétien. C'est l'ennemi, c'est Satan. Donc nous n'avons pas à avoir de haine ou d'amertume envers quelqu'un qui déteste le chrétien. Nous devons avoir de l'amour, de la patience et de la prière, l'intercession et de l'adoration. Ce sont les seules armes que Dieu nous donne. Regardons dans Jean chapitre 17, verset 14. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole. Voilà la deuxième arme, en plus de la prière. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Dans combien de pays? Et quand on regarde l'histoire de France, dans beaucoup de régions, si on trouvait quelqu'un avec une Bible, il était aux galères. On trouvait avec une Bible, un prédicateur, il était mis sur la roue, on lui brisait tous les os et on l'obligeait à abjurer, ce qu'il ne faisait pas souvent. Parce qu'ils avaient la Bible, la parole. Et vous pouvez remarquer, dans tous les milieux d'origine musulmane ou autre, avoir une Bible, c'est quelque chose de risqué. C'est quelque chose de difficile. En Russie, sous le stalinisme, le communisme, avoir une Bible, c'était incroyablement dangereux. Et ce n'est pas une question seulement de religion, le stalinisme était athée.
En Chine.
En Chine aussi. Donc, que ce soit dans un milieu athée, avoir une Bible, ou dans un milieu religieux, autre que chrétien, la Bible est l'ennemi de Satan.
Et même des fois chez les chrétiens, papa, puisque c'est...
Parfois, chez certains chrétiens, qui ne sont pas réellement nés de nouveau, pas réellement convertis, ils ont le dégoût de la parole de Dieu. Donc reconnaissez les vrais enfants de Dieu. Ils aiment la parole de Dieu. Et je répète ce verset, Jean 17, verset 14, je leur ai donné ta parole, donc ils l'ont pris. Et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Dès que vous prenez la Bible comme un trésor pour votre vie, vous n'êtes plus comme les autres. Ça m'est arrivé à l'âge de 16, 17 ans. Je n'ai jamais imaginé que j'aurais une telle bagarre dans ma famille. Mais mes amis, je me rappelle bien, il y a des membres de notre église, je pense à Jackie. Jackie a beaucoup souffert dès qu'il a eu une Bible. Annette aussi. Beaucoup d'entre vous ont souffert dès qu'ils ont eu une Bible en main. Et ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas que les musulmans, nous dans notre monde aussi. Nous avons logé une jeune femme qui était en ingénieur, marocaine, musulmane, avec le voile, pratiquante dans son islam. On se moquait d'elle parce qu'elle avait le voile, parce qu'elle était fidèle à sa religion assez exactement. Et nous l'avons accueillie, elle était déprimée. Nous l'avons logée chez nous parce qu'elle n'en pouvait plus où elle était. Et nous l'avons consolée, elle est venue à table et tout. Et moi j'ai dû lui expliquer, mais tu sais, nos enfants... Je ne vais pas dire le prénom de la personne. Elle revient encore chez nous, de temps en temps. Nos enfants, à l'école, ont souffert de la même façon que toi. Nos enfants étaient l'objet de moqueries, de railleries. Parfois, ils craquaient. J'ai trouvé de mes enfants qui pleuraient dans le lit, que j'allais rejoindre pour prier avec eux. Tellement la méchanceté était grande. Donc, ce n'est pas une question d'une religion, peu importe laquelle, hein, je n'ai d'égo pour aucune religion, ou pour les athées, mais c'est l'ennemi qui veut, qui a la haine de la parole de Dieu. C'est Satan. Donc priez pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils détestent la parole de Dieu et la Bible. Priez pour eux, pour qu'ils soient sauvés. La croix dans laquelle... qu'on trouve dans la Bible, la croix qui nous sauve, est dans la Bible. C'est la normalité même, c'est le cœur de la Bible. Acceptez que vous êtes un disciple de Jésus par la souffrance comme par la joie. Acceptez que vous êtes disciple de Jésus par la souffrance, par la minorité, par l'exclusion comme par la joie. Et lorsque vous vous retrouvez avec les chrétiens, soyez joyeux. Ayez de la joie d'être entre chrétiens, parce que le monde ne vous la donnera pas. Nous allons lire maintenant la première épître de Pierre, chapitre 4. Première épître de Pierre, chapitre 4. C'est un verset merveilleux que j'ai eu bien de la peine dans ma vie à comprendre. Je peux imaginer qu'il est choquant parfois au début de la vie chrétienne, même pendant plusieurs années. Il est choquant, c'est trop fort. C'est trop fort, mais c'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 4, versets 13 et 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et ça, je voudrais vous dire, Satan voit l'Esprit Saint sur vous, en vous. Il le voit, lui. Il rage. Parce que vous ne lui appartenez plus. Parce que vous êtes un élu. Parce que vous êtes scellé pour Dieu. Vous êtes gardé pour Dieu. Il est jaloux. C'est le Dieu de la jalousie, Satan. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors, je prends le verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Lorsque Jésus apparaîtra dans sa gloire, vous imaginez pas la joie que nous allons avoir d'avoir à côté de nous, devant nous, Abraham, David, Esther, Rebecca, tous les saints et saintes, tous ceux qui ont aimé Christ, de toutes les nations, de toutes les cultures. Je me suis aperçu un petit peu de ce que ça pouvait être quand j'étais à Jérusalem au tombeau de Jésus, au Garden Temple. Quand on entre dans ce lieu, à l'entrée, dans la ruelle, il y a énormément de marchands arabes, musulmans, qui vendent des souvenirs chrétiens ou chrétiens, qui viennent de tous les pays. Et puis, dès la porte passée, quand on rentre dans le Garden Temple, les musulmans ne rentrent pas. La religion l'interdit. Donc, les chrétiens rentrent, et on circule dans un endroit où il y a le tombeau, le jardin, et puis après le Golgotha, paisible, silencieux. On voit des gens du Brésil avec leurs habits, on voit des Indiens avec leurs habits, on voit des Chinois, des Coréens, tout le monde dans sa culture. Et ce qu'il y a de beau, c'est que tout le monde se met par 15, 20 ou 30, ou même s'il est tout seul, dans un coin du jardin, il commence à prier et louer le Seigneur. Pas trop, parce qu'autrement ça serait la cohue, en respectant la discrétion, en respectant le lieu. Et là j'ai vu une image de ce qui allait nous attendre. Il y avait une telle paix dans cet endroit, que la paix du ciel était déjà là. Donc vous avez un gain formidable en Jésus, même s'il y a une croix aujourd'hui. Il y a une joie et une gloire incommensurables pour celui qui veut aimer et suivre Jésus. Donc, je vais continuer ma réflexion. Le sel, c'est donc cet acte de volonté nouvelle, renouvelée, cet acte de volonté entière, libre, affranchi du passé, affranchi de tout ce qu'on a reçu avant, sous la direction de l'Esprit Saint. Le sel, c'est l'adhésion à Jésus sans mélange, sans peur, sans crainte et sans trahison, sans retour en arrière. Le sel, c'est l'image de ce qui donne goût aux aliments. Si vous êtes dans cette condition, vous êtes agréable à Dieu. Vous êtes salé. En lui-même, le sel donne la saveur aux aliments. Soyez des assaisonneurs. Donnez du sel aux autres pour qu'ils changent, pour qu'ils abandonnent leurs idoles, leurs mensonges, leurs fausses croyances. Sans ce sel, tout est fade, insipide, voire désagréable à Dieu. Un bon repas est toujours salé, mais dans de justes proportions. Ainsi, un réel attachement à Jésus-Christ pour toute sa vie crée une réelle impression aux autres, réelle impression sur les autres, qui ne comprennent pas toujours. Cela donne un goût céleste aux autres, de paix et de joie, de dons gratuits. Tout ce que le nouveau chrétien peut apporter aux autres, il ne s'en rend même pas compte s'il est salé. Ce chrétien touchera, fréquentera, influencera les autres, il sera une bénédiction, sans préméditation. C'est pour ça que dans Luc, Jésus dit: ne préparez pas ce que vous allez dire, c'est le Saint-Esprit qui vous guidera, qui vous donnera les paroles. N'oublions pas que si le chrétien souffre, il est agréable à manger. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, les autres vont s'en inspirer, même s'ils ne veulent pas le dire. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, ils vont le regarder. Vous avez le point de mire. Et ne vous tracassez pas comment ils vous regardent. Si vous êtes un bon repas, ils ont envie de manger ce qui est salé. C'est un étrange paradoxe jusqu'au retour de Jésus-Christ. D'être à la fois aimé et rejeté. C'est un étrange paradoxe. Mais les amis, n'ayez pas peur de cela. C'est notre condition. Le sel, à l'époque de Jésus et durant plusieurs siècles, était du sel marin aussi, jeté sur le tas de fumier, puis mélangé au fumier, et puis ensuite mis sur le sol. Et ce sol, dans lequel il y avait du fumier salé, je vous l'ai déjà expliqué, je l'ai essayé dans notre champ, où il y avait beaucoup de chiens à dents, d'ivrés. Et j'ai remarqué qu'au bout de 2-3 ans, 90%, 90% du chien à dents était parti. Le terrain qui est salé dans le fumier, évidemment, ne favorise pas l'éclosion du chien à dents. Il est toujours là. Ainsi, si vous êtes comme du fumier, c'est-à-dire rejeté comme du fumier, ressenti comme désagréable à certains moments par d'autres, mais que vous êtes salé, vous apportez quelque chose aux autres qui ne favorise pas leur péché, qui ne favorise pas leur tendance mauvaise, et qui les freine, et qui leur apporte une contestation interne, une réflexion, vous n'avez pas de crainte à avoir. Un fumier salé, c'est intéressant pour le sol. C'est intéressant pour le monde, un chrétien salé. Et si nous sommes traités de fumier, du moment que nous sommes salés, c'est tant mieux. Un fumier moins acide n'amène pas l'ivraie, mais il n'amène pas les vers dans les poros et les carottes, les petites araignées rouges. Donc, quand quelqu'un souffre dans la vie, quand quelqu'un continue sa vie dans le péché, s'il est à votre contact, vous le fumier salé, il se passe des choses qui ne se produisent plus avant. Il y a quand même des attaques spirituelles sur lui qui ne se produisent plus avant. Il y a des phénomènes en lui qui tentent à disparaître. Et il se pose des questions. Vous devez persévérer dans la prière. Ne soupçonnez pas que la grâce de Dieu soit insuffisante en vous. Que la grâce de Dieu n'agisse pas chez les autres. Ne soupçonnez pas la compétence de l'Esprit-Saint de médiocrité. Le Saint-Esprit n'est pas médiocre en vous. Il agit comme un sel agissant dans un fumier. Malodorant parfois nous. C'est pour ça que j'ai commencé avec l'image de mon haleine et du chip-chip. L'image employée par Jésus-Christ pour préciser ce que sont les nouveaux chrétiens, c'est un amour vrai de la parole et salé. C'est un amour vrai, mais c'est allié à un acte de volonté entier, libre, affranchi de toute autre direction, en dehors de l'Esprit-Saint. L'efficacité de notre témoignage n'est pas à mesurer. Nous ne le voyons pas. C'est ça que j'ai voulu dire dans mon message. L'efficacité est réelle. Elle est apportée aux autres. Elle est pure, elle est solide, elle est durable. Et ce n'est pas à nous de savoir comment cela se passe. Mais croyez bien, il n'y aura plus de petites araignées rouges ou de vers dans les carottes et les poros. C'est-à-dire, il y a des changements dans les personnes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et évidemment, je pense à la situation d'aujourd'hui et je vais recourir à quelques textes faisant référence à la situation d'aujourd'hui pour le coronavirus. Coronavirus.
Non, corona.
Coronavirus, voilà. Excusez-moi, hein, parce que ma mère, depuis des années, on l'a chez nous, elle disait des choses comme ça. Le gyrophare, elle disait giroflard. Ou pour...
pour... Diablo, what's up?
Écoutez bien, elles sont en train de me regarder. Dis un peu WhatsApp.
WhatsApp.
WhatsApp. J'y arriverai pas. Vous voyez que la connerie se transmet, mais c'est pas grave.
T'as dit un gros...
Psaume 46. Nous sommes dans la prédication, excusez-moi. Mais je ne veux pas me prendre au sérieux, il n'y a que Dieu qui est sérieux. Et encore, il a de l'humour, beaucoup d'humour, puisqu'il nous aime comme nous sommes. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. N'oubliez jamais ça. Voilà que notre sœur Viviane a le coronavirus chez elle. Et nous avons des coups de téléphone d'autre part, des gens qui sont venus en visite ici. Et une dame nous disait, mais j'étais seule, mon mari était à l'hôpital, sous oxygène. J'étais anéanti. Heureusement qu'il y a des chrétiens qui m'ont apporté un repas, qui venaient à la porte, qui m'ont apporté un repas. On ne peut pas passer à part entière, je ne peux pas apporter de repas à Viviane, mais j'espère que quelqu'un peut le faire, pas loin de chez elle. Parce que franchement, cette dame s'appelait Cathy Michou. C'est beau, n'est-ce pas, Cathy Michou? Eh bien, elle était anéantie par sa situation pendant 2-3 semaines. C'est elle qui me tape les textes des prédications. Je la plains. Dieu est pour nous, psaume 46. Un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais vous voyez que nous pouvons aller aider Viviane, nous pouvons aider des autres quand ils sont dans l'épreuve de leur vie. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Regardez bien ce qui se passe pour le moment, et c'est pas fini. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de mer mugissent, écument, se soulèvent, jusqu'à faire trembler les montagnes. Relisez Luc 21 que j'ai donné dans un autre enseignement. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Vous savez que ce fleuve, pour celui qui croit en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit coule comme un fleuve. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas considérer l'œuvre du Saint-Esprit comme une œuvre médiocre. Nous ne voyons pas tout ce qui se passe, mais sachons bien que ce fleuve est puissant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Où sont les demeures du Très-Haut, les amis? Tout au ciel? Chaque chrétien qui a accepté Christ est une demeure du Très-Haut, un temple du Saint-Esprit. Ne laissez pas tout là-haut, comme dans l'Ancien Testament, chez les Juifs. Les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit. Ils sont une demeure du Très-Haut. Celui qui garde ma parole, je demeure en lui. Et je viens avec mon Père et je fais ma demeure en lui. Alors, Dieu est au milieu d'elle, la cité de Dieu. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Remettez-vous, chère Viviane, et tout quiconque s'approche de cette maladie peut-être sans s'en rendre compte. Des nations s'agitent, c'est le cas. Des royaumes s'ébranlent, peut-être les banques aussi. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Ça, c'est pour bientôt. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. Et quelque chose qui est assez dur à accepter, mais les amis, il y a quand même un jour un jugement qui arrive. Il est prévu. J'achève le verset. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Pour nous, il y a des œuvres immenses et formidables en Christ. Mais les ravages qu'il opère, qu'il va opérer, c'est pour ceux qui auront refusé. Celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, voilà un bon ravage. Anéantir toutes les armées. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Ouf! Ça fait des années que nous prions pour qu'il n'y ait plus d'avions qui passent dans le ciel au-dessus de chez nous au matin, qui polluent. Et c'est arrivé. Eh bien, nous prions pour qu'il n'y ait plus de chars de guerre, qu'il n'y ait plus de fusils. Parce qu'on produit ça autant que des pains sur terre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
Les armées, c'est les armées célestes.
Alors, les armées, ce sont les anges, bien sûr. Et nous sommes entourés d'anges. Et Dieu va envoyer Jésus avec ses anges. Nous nous réjouissons ce jour-là. Alors, je vous invite à lire dans la foulée, et puis j'en termine, le psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Pour ceux qui ne l'ont pas aimé et accepté. Hein. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Alors, vous vous rappelez que, évidemment, dans Luc et dans Matthieu, il est dit que beaucoup de nations vont se réunir pour le repas à l'entour de Jésus. Beaucoup de gens vont venir au repas avec Abraham. Mon souhait, c'est que nous y soyons tous. 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 Même peut-être ceux qui ont mis Jésus de côté d'un certain temps. Dieu est fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles, il est fidèle. Il ne nous renie pas. S'il a touché notre cœur, il veut toujours nous reprendre auprès de lui. Alors, je cherche ce passage. Je m'excuse, je l'avais tout à l'heure sous les yeux, et puis j'ai oublié de mettre un tout petit papier. Mais je ne le trouve peut-être pas.
C'est quoi?
Mais ce repas que Abraham, Isaac et Jacob tiendront avec Dieu, en Christ, beaucoup de nations y seront rassemblées. Jésus l'a dit dans Luc et Matthieu et Marc. Je ne retrouve pas le passage, veuillez me pardonner. Maintenant, aujourd'hui, soyez bénis en Jésus. Que toute notre foi grandisse dans ces moments d'épreuve. Que le Saint-Esprit agisse puissamment en nous. Loué soit Jésus. Amen.